Bonsoir. Et bienvenue à la bibliothèque pour cette rencontre avec Arnaud Catherine, qui nous fait l'honneur d'être là. Et je dis bien l'honneur parce que faut savoir que votre votre livre Je ne retrouve personne a été le deuxième livre le plus lu à la bibliothèque en 2015. Donc, alors vous avez une attachée de presse à côté de vous qui a beaucoup travaillé, mais voilà. Et derrière Patrick Modiano.
Ça va. C'est
voilà. Ça me va.
Je vais remercier l'association Lectures et Rencontres avec notamment Philippe et Emmanuel qui ont œuvré pour préparer cette rencontre. Et puis bon, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais juste rappeler qu'il y aura une vente dédicace après cette rencontre. Et je vais laisser donc Catherine de la bibliothèque et Emmanuel de Lectures et Rencontres pour mener d'une main de maître cette rencontre et cet échange. Voilà. Bonne soirée. Merci.
On va voir la main de maître. bonjour Arnaud Catherine. Je vais faire une brève présentation. Donc vous publiez votre premier roman Les yeux secs en 98 aux éditions Verticales, édition pour laquelle vous publiez toujours. Depuis, vous avez écrit de nombreux romans en littérature générale et en littérature jeunesse, il ne faut pas l'oublier. Vous aimez tout particulièrement explorer le champ de l'écriture sous toutes ses formes, paroles de chansons, on peut parler de la collaboration avec Laurent Marché, peut-être vous nous en parlerez, écriture de scénarios, adaptation scénique au cinéma, au théâtre et lecture musicale. Et j'en oublie sans doute, non, dans ce que vous faites. votre dernier titre est un recueil de nouvelles, Pas exactement l'amour, paru en 2015 aux éditions Verticales, livre ayant obtenu le prix de la nouvelle de l'Académie française. On va dire que ce sont 10 variations sur le couple, le sexe, la passion, les sentiments ou états qui précèdent l'amour, lui succèdent ou lui en tiennent lieu, pardon. 10 nouvelles écrites avec beaucoup d'acuité et de finesse, comme toute votre œuvre, c'est ce que l'on a prouvé. Voilà, alors on est ravis de vous accueillir à la bibliothèque et nous allons parcourir avec vous votre œuvre. Vous voulez dire un petit mot
Comme vous voulez. Hein,
Oui, on peut dire bonjour, ça se fait. On peut dire bonjour, merci d'être là et merci de m'avoir invité. Après, je suis toutouille. Je vous suis.
D'accord.
J'ai aucun talent pour parler tout seul.
Moi non plus. On va y aller.
Alors, on va essayer de parler de ce qui nous a semblé être des thèmes récurrents dans vos romans. Dans la plupart de vos romans, Arnaud Catherine, les personnages, souvent masculins d'ailleurs, ont beaucoup de difficultés à trouver leur place dans la vie. Ou s'ils la trouvent, à un moment donné de leur vie, ils ne s'y reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus dans la place qu'ils occupent et, chose commune aussi à la plupart de vos romans, ils décident de fuir leur vie, fuir leur entourage, ou voire de disparaître définitivement. Dans la disparition de Richard Taylor, notamment, Richard Taylor fuit, sans plus donner de nouvelles à qui que ce soit, ni même sa femme. Dans le journal intime de Benjamin Lorca, met fin à un séjour. Benjamin Lorca, qui est un écrivain, d'ailleurs. Et dans l'un de vos derniers, avant-derniers romans, Je ne retrouve personne, le personnage principal fait le point sur sa vie, sur son passé, son enfance. Vous voulez dire quelque chose sur ce thème qui nous a semblé ressortir énormément dans les romans ?
Ouais, c'est vrai qu'il y a ces récurrences-là. C'est la question de la place, je crois. Et ce sont des variations autour de quelque chose qui m'a occupé très jeune et qui, je pense, nous occupe tous, qui est où est ma place, si tant est que j'en ai une. Et quand j'étais adolescent, que j'ai commencé à réfléchir à ça, mon père me le raconte toujours avec un sourire. Chaque fois qu'on se promenait quelque part, je commençais à observer des corps de métier, des gens, et à chaque fois, je lui disais... Je veux pas faire ça, qu'est-ce que j'aimerais pas faire ça, qu'est-ce que j'aimerais pas être ça. Et à chaque fois, il me disait en riant, mais il va bien falloir quand même que tu trouves. Et c'était un vrai mystère parce que mes études passaient et je ne me voyais nulle part. Et je pense que c'est pour ça que je me suis abrité d'abord dans la musique, qui me semblait être une place de liberté, d'expression artistique, d'expression personnelle. En fait, j'avais en horreur la vie au bureau. Je m'étais fait toute une mythologie de la vie au bureau, qui est pourtant quelque chose de nécessaire dans ma vie, quoi. Mais pour moi, c'était d'avance une prison. Et je me disais, il va falloir que je m'invente quelque chose hors de ça. Alors j'en avais une vision sans doute un peu excessive, exagérée. Il y a des bureaux qui sont paisibles et où qui sont exaltants et où on se réalise. Mais bon, j'avais quand même ça en tête. Et donc il y a eu la musique et ensuite il y a eu l'écriture. Et à la fin de mes études, je me suis dit, à la veille de publier mon premier roman, j'ai assez vite compris que je ne pourrais pas vivre que de ça, mais j'ai compris avec un certain ravissement qu'une partie de ma vie se ferait dans mon bureau. Ce qu'on a traduit par une chambre à soi, pour titrer la traduction du livre de Virginia Woolf, c'est ça. C'est qu'une partie de mon travail, qui en plus est une passion, eh ben, ce serait ma chambre d'écriture et ce serait ma place. Et je suis tellement heureux parce que voilà, il y a des thèmes assez sombres dans mes livres, mais quand on me demande de parler de mon métier d'écrivain, je ne peux pas en faire un chemin de martyr. J'ai eu des rêves, notamment artistiques, qui se sont réalisés maintenant en plus sur scène, dans la musique. Il y a tous ces prolongements qui me ravissent. Donc voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. J'ai été obsédé par la question de la place. J'ai eu peur de ne pas trouver une place qui m'exalte et je l'ai trouvée en partie dans l'activité artistique. Après, la place dans la société, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini d'interroger. Parce que ça, c'est une deuxième variante, j'ai envie de dire. J'étais aussi, quand j'étais ado, et je le suis toujours, obsédé par les cases, les catégories dans lesquelles on vous met. Ça m'a toujours semblé extrêmement étouffant de catégoriser les gens. Et je crois que le roman, la littérature, c'est une façon d'échapper à ça, à ces places étouffantes. C'est une façon qu'on a encore, plus encore qu'à la télévision, où ça devient de plus en plus difficile, par exemple. On a la liberté d'aller dans la complexité, d'aller derrière les stéréotypes, et donc derrière les catégorisations. Et je trouve que tout d'un coup, on retrouve l'air, quoi, de pouvoir dépasser ces petites places mesquines qui nous étouffent et dans lesquelles on ne se reconnaît pas, parce qu'on est toujours plus complexe qu'une simple petite case, quoi, qui nous enferme, en gros, ce que ça m'inspire.
Merci. Alors on va passer à un deuxième thème, qui est celui de trouver sa place dans la famille aussi.
Vous avez ça, c'est dit... pas possible.
Vous avez dit la famille est un sport de combat. Dans beaucoup de vos romans, vos personnages sont à la fois perdus, en crise identitaire, et ils ont souvent. Et cette crise identitaire est souvent liée à une difficulté à aussi trouver sa place dans la famille, et avec des relations familiales qui les marquent un peu au fer rouge pour le restant de leur vie. Avec. Un thème qui revient très souvent, c'est les relations des fils avec le père, très souvent à l'origine de beaucoup de souffrances, une reconnaissance paternelle qui n'est pas là, je pense à exercice de deuil par exemple, mais également les relations entre frères, avec souvent un frère, très souvent le plus jeune frère, qui est sous la coupe de l'aîné, et qui vit dans une sorte de complexe d'infériorité et qui l'empêche également de trouver sa place, son identité. Donc ça, on le voit très bien dans le journal intime de Benjamin Lorca ou dans Je ne retrouve personne. Et puis il y a aussi l'inceste qui est très présent dans vos romans, entre frères et sœurs. On retrouve ce thème-là dans Les yeux secs, dans Sweet Home. Bon, bref, voilà, c'est un écheveau assez incroyable. J'aimerais aussi vous entendre sur ce thème. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces thèmes qui sont lourds, hein, parce que quand on les lit, on n'en sort pas indemne.
Bon, je vais essayer de répondre à tout ça avec pudeur, parce que évidemment, vous avez remarqué que le pacte de lecture entre nous, c'est qu'il y a marqué roman sur la page de garde, et ça m'arrange bien. Donc vous imaginez que tout ça ne vient pas de nulle part, mais malgré tout, J'ai ce... en moi cette chose très profondément ancrée, qui n'est pas très moderne, hein, mais je suis très pudique, donc le roman m'arrange, c'est un masque, comme on le dirait, d'un comédien qui rentre sur scène masqué. C'est un masque qui me permet d'être d'autant plus libre et au plus proche de moi-même. Puis j'ai le souci, en construisant des compositions romanesques, de rejoindre le lecteur aussi. Donc ces livres sont jamais tout à fait moi et jamais tout à fait le lecteur non plus. J'ai toujours le rêve qu'on se retrouve à mi-chemin sur ce pont jeté vers le lecteur, quoi. Moi, ce qui m'interroge dans la famille, ce qui ne cesse de m'étonner en fait, c'est que la chose que l'on fabrique la plus couramment dans le monde, c'est une chose d'évidence, et c'est la chose la plus difficile à construire. Donc c'est pas un « famille, je vous hais » que je réitère de livre en livre, c'est « famille, j'ai du mal à comprendre comment autant d'amour peut cohabiter avec autant de... » pas de haine, mais on s'aime autant qu'on se fait mal, et ça ne cesse de m'étonner. On est là pour... justement être les êtres liés par l'amour le plus inconditionnel qui soit, mais cet amour est écrasant. Et c'est ce paradoxe, en fait, de l'amour et de la... en quelque sorte de la négation de l'autre, de sa liberté, de son devenir autonome, indépendant du foyer. C'est ça qui m'interroge, et plein d'autres auteurs. On est plein à être passionnés par ce paradoxe qui est constitutif de... qui est une des définitions de la famille, quoi. Voilà, c'est la chose la plus répandue, et c'est la chose la plus difficile à réussir. Peut-être plus difficile que l'amour. L'amour au sens du couple. Être un fils, c'est infiniment difficile. Être un père, c'est infiniment difficile. Être une mère, c'est infiniment difficile. Et voilà, et je pense qu'on le sait, les gens qui s'en sortent le mieux, c'est les gens qui se remettent en cause tous les jours. Et qu'est-ce que c'est... Alors ça, c'est un sport de combat, de se remettre en cause tous les jours, de savoir ce qu'on fait avec ses enfants, de savoir si on fait bien, d'essayer de faire le moins mal possible. Voilà, je trouve ça étonnant. Dolto est passé par là, pour notre plus grand bonheur, plein de psychanalystes, plein de romanciers. Mais je trouve étonnant que, pour construire cette si belle chose qu'est la famille, il faille s'efforcer de faire le moins mal possible. C'est bizarre, hein. Et alors ça fait venir de plein de romans, fatalement.
On va continuer.
Je veux bien.
Avec un autre thème aussi qui nous a apparu, et je pense que vous ne contredirez pas, omniprésent dans vos romans, c'est la mort. La mort... Quelle soit la mort des personnages principaux, quelle soit la mort de connaissances des personnages principaux, par exemple la mort de la mère dans Sweet Home, le suicide de la mère, dans l'exercice de deuil, l'ami amant qui se suicide, il y a beaucoup de suicides aussi également dans vos romans.
Quelques-uns.
Quelques-uns. Beaucoup. Bon, quelques-uns, on ne va pas dire beaucoup. On a pensé que c'était une sorte de prétexte pour la création de votre univers, d'une atmosphère, et surtout, chose importante à nos yeux, qu'elle était un support à la mélancolie, une mélancolie qui est très présente aussi dans vos romans, à différents niveaux. La mélancolie chez les vivants, en fait, ils ont du mal à vivre, et chez les morts, qui, pour le coup, par incapacité à continuer à vivre, ont choisi la mort. On voulait vous interroger sur cette mélancolie qui, même quand on a 30 ans, a du mal à passer. C'est ce qui nous semble être le cas dans vos romans. Déjà, pourquoi ne jamais aller au-delà de la mélancolie? C'est une question qu'on s'est posée. Et quelle réaction des lecteurs vous attendez, ou vous espérez, ou pas, face à ce thème et face à ces thèmes que vous déployez? Qu'est-ce que vous voulez provoquer?
C'est tout ce que vous dites depuis tout à l'heure est extrêmement subtil, je trouve, et en même temps je me prends dans la figure des choses dont je suis absolument responsable, donc je ne vais pas chouiner, mais tout d'un coup j'ai l'impression qu'il n'y a que c'est sinistre, quoi.
Non.
C'est pour ça qu'avant de vous répondre, j'ai envie de dire que bien sûr il y a des gens qui disparaissent dans mes livres, il y a des gens même qui mettent fin à leur jour, mais parce que ça fait partie de la vie aussi. Et je m'intéresse quand même toujours à ce qui reste. Et c'est ça la grande aventure. C'est ce qui reste. Comment on reste après comment... Parce que c'est toujours plus ou moins quand même le pari dans mes livres. Et dans le romanesque tout court, il y a un obstacle. Comment on va passer l'obstacle? Et donc, que ce soit en littérature jeunesse, d'ailleurs, oui, mon premier roman en littérature jeunesse, ça parlait du suicide adolescent, qui est une réalité, qui n'est pas un phénomène mineur hein, dans la vie. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre les pieds dans le plat et entrer en littérature jeunesse avec ce thème, qui me semble important. Et bien, même dans ce livre-là, qui s'appelait Mon démon s'appelle Martin, l'idée, c'était comment est-ce que le narrateur va réussir à dire à Martin, cet ami qui a disparu, « Laisse-moi continuer sans toi ». Comment faire sans toi? Et donc il y a toujours, j'espère quand même dans mes livres, de la lumière, cette lumière-là, qui est la lumière de l'horizon. Comment se relever, comment ne pas rester à genoux quand tout voudrait qu'on reste à genoux en souffrance. Donc voilà, je voulais juste préciser que l'enjeu, pour moi en littérature, et l'enjeu du geste de l'écriture, il est dans une pulsion de vie, et non pas dans une complaisance par rapport à la pulsion de mort, chose que vous n'avez pas du tout dit, mais je voulais le préciser quand même. Après, si je m'octroie le droit effectivement de pas laisser libre cours, mais à exprimer des humeurs mélancoliques dans mes livres et à évoquer la mort, c'est que je trouve que c'est pas politique, on va pas employer les grands mots, mais il n'y a plus beaucoup d'espace, à part des espaces privés entre nous, je parle des espaces artistiques et publics. Il n'y a plus beaucoup d'espace où on peut dire les choses telles qu'elles sont, sans formater, sans prendre des milliards de paires de gants, parce que le producteur va avoir peur qu'il n'y ait pas assez de gens dans les salles, parce que la chaîne va penser qu'en prime time, ça ne se fait pas, et qu'il vaut mieux mimimati et un joli sourire. Non mais, on vit dans un monde qui est de plus en plus formaté, même quand on croit que c'est un espace de création. Alors, il y a la publicité d'abord, qui nous sert un discours totalement... qui est du mensonge par rapport à ce qu'est la vie. C'est du mensonge. Et en plus, quand j'en sais quelque chose, j'ai écrit quelques téléfilms et tout, le travail avec le producteur, enfin certains, là j'en ai écrit un qui est passé sur Arte l'année dernière et ça s'est merveilleusement passé, mais ça n'arrive pas toujours. Parfois, le travail avec le producteur, ça consiste simplement à édulcorer le scénario, faire en sorte que ce soit d'un lumineux faux, quoi. Et en littérature, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu, ça ne coûte pas très cher de fabriquer un livre, la censure économique sur la thématique sur, ne pèse pas. Et donc, chez Vertical, entre autres, mais dans tellement d'autres maisons d'édition, on a le droit de parler de ce qui existe, y compris si ce n'est pas très vendeur. Et donc, moi, je m'y précipite, quoi. Parce que sinon, je me sens mal. On se sent tous mal, je pense, avec les tabous. On parle de moins en moins de la mort, on parle de moins en moins de certaines choses, et ça fait du bien entre vivants, en fait, de parler de ce qui nous pèse. Ça casse la chaîne du froid. Donc, je me censure jamais quand il s'agit de parler, effectivement, de choses un peu qui peuvent paraître plombantes, mais je pense que ça va pas, que c'est pas plombant, en fait. Peut-être que vous aussi, mais il m'est arrivé très souvent dans des périodes un peu sombres de lire des livres qui l'étaient tout autant et je m'en ressortais bizarrement et paradoxalement plus vivant. Et parfois je suis très bien et je lis un mauvais livre et ça me déprime. Donc je pense pas que l'effet miroir sur nos humeurs, sur notre spleen, nous y enfonce et nous y laisse. Au contraire, on se dit tiens, il y a quelqu'un d'autre que moi qui s'est senti comme ça. Je suis pas seul déjà. Ça sert qu'à ça, en fait, pour moi, la littérature. C'est savoir qu'on a une solitude qui peut être entachée à un moment, entamée par la présence de l'autre, par même son ombre, quand c'est un lecteur ou une lectrice qu'on ne connaît pas, qui est loin. J'espère que je réponds à votre question, j'en sais absolument rien. Mais... Et puis, l'écriture, sans doute, c'est que ça a commencé comme ça pour moi quand j'étais ado, quoi. Que ce soit des chansons, des poèmes, des petites nouvelles ou des romans que j'ai jamais finis, si je me suis mis à écrire, en fait, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout simplement. C'est qu'il y avait des choses dont j'étais incapable de parler avec mes parents ou avec mes amis ou avec des instances qui auraient été là pour l'entendre. Je pouvais pas le sortir de moi autrement que dans une expression artistique et je me suis mis à écrire, à tenir un journal aussi, pour ça. Parce que... un tel venait de mourir, parce que plein de choses, parce que aussi la mue qu'on subit à l'adolescence qui est quand même très troublante. Donc toutes ces choses qui déstabilisent, voire parfois abattent, j'avais besoin d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que quand on écrit, ou quand on est lecteur, quand on lit, on ne ressuscite pas nos morts, on ne fait pas revenir nos fantômes, il n'y a pas de thérapeutique, j'y crois pas à ça. La thérapie, c'est la thérapie, la littérature, c'est la littérature. Mais on ne reste pas dans cet état de frustration et de tristesse stérile. Il y a quand même une fertilité, je trouve, à recevoir une histoire quand on est lecteur et à l'adresser quand on est auteur. On fait quelque chose au moins avec nos fantômes, avec nos morts, avec nos humeurs. Et moi, c'est ma façon, en tout cas, d'être chaque jour un peu plus vivant et de ne pas me laisser aller à sombrer, peut-être. Voilà. Je pense que la littérature peut sauver. Ça paraît un peu solennel, mais je le pense vraiment, en fait. Et y compris quand on est lecteur, quoi. Enfin, il y a d'autres choses, il y a toute forme d'art, je pense, peut sauver.
Alors, je vais vous poser une petite question. C'est une question qui nous a taraudé au sujet des prénoms de vos personnages, puisque vous avez écrit quand même un certain nombre de livres qui sont donc autant d'occasions de raconter des histoires, d'introduire des nouveaux personnages. Et alors, on a trouvé que parfois, il y avait un entêtement sur certains prénoms, notamment Martin. Alors, Martin, c'est l'ami suicidé dans Mon démon s'appelle Martin. C'est le jeune frère de Benjamin Lorca.
Dans Sweet Home aussi, je crois.
Oui, c'est le petit frère dans Sweet Home, exactement. Ouais. C'est le vrai prénom de Dorian, le narrateur du livre « Je suis l'idole de mon père ». Et c'est le futur mari de Junon dans Je ne retrouve personne. Alors, la question.
Quelle précision
c'est... Ce Martin, est-ce qu'il y a une signification particulière?
Je ne peux pas imaginer que vous bluffez, que vous n'avez pas lu tous ces livres. Non, mais ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de Martin dans mes livres parce que je n'en connais pas, en vrai. Et que les prénoms, ils sont pour nous tous très connotés. Ils ont tous des connotations différentes. Voir d'ailleurs quand un enfant va naître et que les pauvres parents ont le malheur de confier qu'ils aimeraient appeler leur enfant je sais pas quoi et je sais pas comment. Là, tout le monde s'y met et de donner son avis qui n'a aucun intérêt parce qu'il n'est que subjectif. Voilà. Et puis de toute façon, je considère que c'est l'enfant qui fait le prénom et qui le transforme, qui l'habite. Et alors, je suis très gêné quand j'ai à choisir des prénoms. Au début, je situais toujours mes livres à l'étranger, alors c'était très facile. Parce que du coup, les John, les Jane, les, ce que vous voulez, les Luca, c'était très facile. Ils ne me rappelaient personne, et donc il y a un personnage qui pouvait exister très facilement, celui que j'allais bâtir. Et quand mes romans ont commencé à se situer en France, j'étais très gêné parce que je ne peux pas prendre tel prénom parce que c'est ma mère, je ne peux pas prendre tel prénom parce que c'est mon meilleur ami, je ne peux pas prendre tel prénom parce que j'en ai connu un il y a 10 ans. Et donc aucun personnage ne peut naître de ça, il est écrasé par quelqu'un. Comme on a l'impression parfois quand certains comédiens ont une personnalité tellement prégnante que le personnage peut pas exister, parce que et parfois c'est bien d'ailleurs, hein. Quand on voit Huppert ou Depardieu, c'est d'abord Huppert et Depardieu. Alors il se trouve que ce sont deux monstres sacrés, donc on accepte. Mais parfois on est gêné par ça, on se dit « Ah, moi j'aurais voulu quand même voir Phèdre et je ne vois que Madame ». Et alors c'est pareil. Donc je m'accroche à des prénoms qui ne me rappellent aucun visage, et comme ça il y a la promesse que peut-être un embryon de personnage va naître. Mais alors il y a des avaries. Il y a eu beaucoup de Ninon dans mes livres. Mmh. Et puis je me suis mis à bosser avec une metteuse en scène qui s'appelle Ninon Bretéché. Mmh. Et pour le livre suivant, donc, je me suis dit, il est hors de question que je réutilise ce prénom qui maintenant, pour moi, est une jolie fille rousse. Donc je suis passé à Junon. Voilà, donc il restait quand même quelques consonances, il restait cette poésie que j'aime. En fait, c'est pas le cas de Martin, parce que Martin, c'est un prénom assez simple. Mais j'aime bien quand certains prénoms trimballent quand même quelque chose avant même que le personnage existe. Junon, c'était le prénom de Catherine Deneuve dans un dépléchin. C'était un conte de Noël, je crois. Et c'est pas que je pensais à Deneuve, mais je me disais, quelqu'un qui s'appelle Junon, on peut pas imaginer que c'est quelqu'un de fade, quoi. Voilà. Bon, alors après, ma recherche des prénoms et mon choix des prénoms, c'est une fois encore quelque chose qui est sans doute extrêmement subjectif et qui doit être reçu par le lecteur ou la lectrice différent du signal que moi j'envoie. Hein. Mais sachant que je passe un an à deux ans avec un bouquin et des personnages, j'ai vraiment besoin que ce soit des compagnons de vie et je ne peux pas être encombré par des souvenirs si ces souvenirs ne sont pas convoqués volontairement de ma part, quoi. Voilà pourquoi Martin.
D'accord.
Le jour où je ferai la connaissance d'un Martin, il disparaîtra de nous.
Mais vous l'avez déjà bien exploité, donc.
Ouais, on va changer. Hein, on va passer à Tintin.
On va parler, si vous voulez bien, de l'écrivain et du rôle de l'écriture que vous interrogez dans vos romans. Beaucoup de vos personnages sont quelques-uns de vos personnages sont écrivains et vous questionnez l'acte d'écrire et également la responsabilité de l'écrivain vis-à-vis de ses proches,
ouais.
Notamment. On a lu dans une interview que vous êtes très vous attachez beaucoup d'importance à la notion de morale en écriture. Vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet,
oui.
Voilà, que ça nous a interrogés. Et vous parlez également des livres que vous dites « je n'arriverai pas à écrire, ceux qui feraient du mal autour de moi ». Donc là, ça interroge effectivement la notion de morale et la responsabilité de l'écrivain vis-à-vis de ses proches. Voilà, qu'est-ce que...
Oui, ça, j'y pense toujours. En fait, on a un pouvoir quand on écrit. Parce qu'on apporte des histoires en place publique, et on peut, si on veut, s'emparer de l'histoire de quelqu'un qui n'a vraiment pas choisi d'être pris en otage. Alors, disant cela, je préviens tout de suite, comme tout à l'heure j'ai dit, c'est pas un famille je vous hais que je lance dans mes livres, loin de là. C'est un famille j'essaye de vous comprendre. Là, c'est pas un autofiction, autobiographie je vous hais. Je suis un énorme lecteur d'autofiction. Annie Ernaux, par exemple, est pour moi l'un des plus grandes romancières françaises. Bon. J'adore l'autofiction et l'autobiographie. Après, même dans l'espace du roman, il ne faut jamais oublier qu'on a une responsabilité. Quand on parle de soi, on parle des autres. Et donc, j'ai aucune leçon à donner d'ailleurs, chacun sa réponse. Et moi, je cherche ma réponse à ça. Je cherche comment je me positionne par rapport à ça. Henri Calais, je l'ai raconté dans un de mes bouquins, je ne sais plus lequel, Henri Calais, cet auteur un peu oublié de la génération d'Emmanuel Bove, tout ça, raconte que Monsieur Paul, qui raconte la fin de son histoire d'amour, il en lisait une page à sa femme tous les soirs. Et ce bouquin a totalement détruit cette femme. Elle a terminé en HP. Et il se trouve que Monsieur Paul est un livre magnifique. Il y a ce paradoxe-là dans la littérature. Et chacun en fait ce qu'il veut. Donc il y a Christine Angot d'un côté, mais c'est sa réponse, ça ne regarde qu'elle, qui dit qu'il n'y a pas de morale en littérature, et qui va s'emparer de tout un chacun, de Ghislaine Edith ou Jean, parce qu'elle a envie de s'en emparer, et vous allez vous retrouver demain dans son livre, et elle n'a aucune responsabilité. Bon, c'est sa réponse, et tant que c'est pas moi qui suis pris en otage, je me contente de lire Christine Angot comme un lecteur, et de dire que j'aime tel livre et j'aime pas tel livre. Mais à partir du moment où je suis auteur, j'y réfléchis et j'ai ma réponse. Et c'est vrai que pour l'instant, le roman m'arrange, parce que je peux maquiller, transformer, transposer, de là à ne pas prendre en otage des gens qui ne l'auraient pas choisi. Mais je dis bien, ce n'est que ma réponse, et je ne juge pas les gens qui font le contraire, parce qu'en plus, il se trouve que dans un certain nombre de cas, ils signent des chefs-d'œuvre. Pour ça qu'il ne faut pas donner de leçons là-dessus. Mais je veux être responsable juste des bombes que je pose, et je veux autant que possible en poser le moins possible. Voilà, et c'est difficile parfois, parce qu'on a des choses à dire, à raconter, mais on sait que si on les raconte de but en blanc, soit on va mortellement blesser un tel, soit on va se fâcher ad vitam avec une telle, c'est compliqué, quoi. Et voilà, donc grâce au roman, on peut transposer telle figure féminine dans ma tête, tiens, boum, j'en fais un garçon dans un livre. Vous parliez des frères tout à l'heure, qui reviennent tout le temps, j'ai pas de frères. Or, mes livres ne parlent que de ça. Mais c'est génial, parce que comme j'ai pas de frères, la figure du frère peut accueillir plein d'autres expériences que je ne pourrais pas traiter de but en blanc. Par exemple, chez moi, les frères, ça parle souvent, je sais pas, de la disparition d'un ami, ça peut parler d'un amour aussi. Et parce que c'est un frère, bah, tout d'un coup, un tel ou une telle ne va pas aller s'y chercher, alors que c'est notre histoire que je raconte dans cette histoire de frère. Voilà, donc c'est des transpositions comme ça qui m'arrangent, et la figure du frère m'arrange carrément, particulièrement. Je suis vachement plus embêté avec le père et la mère, par exemple.
Sûr que d'avoir une père ni mère, c'est compliqué. Je vous propose de passer maintenant au style et un peu à la construction de vos romans. Il y a beaucoup d'acuité et de finesse dans votre regard. Vous avez des formules assez percutantes. Je vais en citer quelques-unes. Le rance a pris toute la place, par exemple, que j'ai noté. Je trouvais ça assez décapant. Ainsi que des portraits que vous faites de certains personnages. Donc, je vais aller vous citer pour donner aux personnes qui sont là un peu le là. Elle avait le regard cruel de ceux qui finissent par vous confondre avec l'injustice qui les frappe. Ou encore, je contemple ce beau visage qui a la politesse de ne plus chercher à dissimuler ses rides et laisse entrevoir la peau entre les brisures du masque.
Il y en a dont je ne me souviens plus.
C'est une de mes questions aussi, c'est de savoir si on se souvenait de tout ce qu'on avait écrit. Mais...
Ça sera encombrant, hein.
Ça sera encombrant, c'est ça. Oui, ça sera... C'est sûr. Voilà, après, sur, il y a aussi beaucoup de lucidité, une sorte de lucidité. Alors, je vais employer le terme désespéré, mais ça ne va peut-être pas vous plaire, mais sur la vie, sur l'amour. Donc voilà, donc à la fois cette... ces formules très percutantes, cette acuité du regard, et puis une forme qu'on retrouve qui est l'utilisation de regards croisés qu'on a dans certains de vos romans. La disparition de Richard Taylor, par exemple, ou Sweet Home, où vous faites intervenir plusieurs personnages alternativement. Donc, et c'est la vision de chacun de ces personnages qui se croise. Hein. Qui s'enrichissent les unes les autres et qui fait qu'on est dans un monde à la fois subjectif et on ne sait plus quelle est l'objectivité réelle du personnage. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre manière d'écrire et puis sur ce type de dispositif ?
Alors le dispositif des regards croisés, alternatifs et tout ça, c'est parce que... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, dans l'espace de la littérature, on a un peu plus la liberté d'aller dans la complexité, et donc dans une vérité introuvable ou dans des vérités contradictoires. Et quand je dresse le portrait d'un personnage, j'aime bien faire s'exprimer plusieurs autres personnages pour explorer un peu tous ces visages qu'on arbore selon qu'il se tourne vers X ou Y. Quoi. C'est dingue comme il y a autant de vérité en nous que de regards qui se posent sur nous, en fait. Et parfois des avis totalement contradictoires, contraires, et je trouve ça passionnant, en fait. Et je trouve ça assez exaltant de savoir qu'on n'est pas qu'un, qu'on est pluriel, grâce aux autres, qui pensent des choses différentes de nous, et parfois parfaitement, qui ne peuvent pas cohabiter, d'ailleurs. Donc il n'y a pas de vérité ultime sur quelqu'un, et je trouve ça génial, et donc j'en fais l'exercice dans les livres. Après, l'écriture, c'est très difficile de parler de ça, parce que c'est pas travaillé consciemment. Enfin, comme on dit sur scène, on sait pas ce qu'on rend. Donc je ne sais pas ce que je rends, je sais juste comment je taille la pierre, quoi. Et le premier labeur, c'est d'essayer de renverser le cliché, de se débarrasser du stéréotype qui envahit la langue commune. Et ça, c'est un labeur, ouais, c'est du travail. D'éradiquer ça dans sa phrase, et puis d'être le plus juste possible. Mais alors, quand une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, quoi. Parce que la justice, j'allais dire la justesse, une fois encore, c'est quelque chose de subjectif. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, on se débat avec les clichés, les stéréotypes. On essaye d'être le moins attendu possible. Sur des sujets comme d'ailleurs l'amour et la mort, ça peut vous tenir des heures et des heures. Ou alors on essaye de réinjecter de la poésie et de la dimension dans des phrases toutes faites, telles que « je t'aime » ou « ça c'est pas facile » aussi. Comment faire résonner vraiment des phrases qu'on dit et qu'on pense dans la vie, mais qui sont plus que des clichés éculés. Ça c'est un joli pari aussi. Voilà. Et puis après il y a quelque chose qui nous échappe totalement, ça c'est comme la voix. C'est que voilà, on a des cordes vocales qui sont ainsi, qui font qu'on a telle voix, qu'on peut aller dans telle tonalité, et on ne les choisit pas. Sabart, il en parlait super bien, puisqu'il comparait beaucoup le style à la voix. Il y a un moment, vous découvrez votre voix, votre tonalité, comme en cours de chant, et puis on vous dit, vous allez travailler avec ça, vous n'allez pas essayer d'aller en voix de tête si vous ne pouvez pas, vous allez y renoncer tout de suite, vous allez accepter qui vous êtes, renoncer à ce que vous auriez aimé, et essayer de travailler du mieux possible avec ce que vous avez. Et moi, je sais que voilà, j'ai un dispositif de voix que je découvre au fil des ans et que je ne saurais pas qualifier d'ailleurs, mais je ne peux pas faire 100. Si je fais 100, c'est du pastiche. C'est ce que je faisais quand j'étais ado d'ailleurs, parce que le pastiche et la parodie et tout ça, surtout le mime, ça sert à se trouver, quoi. On se trouve par défaut. Donc quand j'écrivais des nouvelles ado, une fois c'était une imitation d'Annie Saumont, une fois du Edgar Poe, beaucoup du Kundera parce que je dévorais ça quand j'étais adolescent. Puis à chaque fois, moi, j'étais hyper content quand j'avais terminé ma nouvelle et puis je me relisais et je voyais bien que j'étais dans une imitation, ce qui me désespérait. Rétrospectivement, ça ne me désespère pas parce que je sais que c'est comme ça que j'ai peut-être trouvé un petit brin de voix, parce que je n'ai pas une voix très puissante. Mais un petit brin de voix qui, je l'espère, est juste et qui, au moins, est un peu personnel, quoi. Voilà. C'est ma seule façon de parler d'écriture parce que c'est difficile de qualifier ce qu'on fait, quoi. Je sais juste que c'est un travail que j'aime, d'ailleurs, mais c'est les deux tiers du travail, peut-être, de relecture et de tailler comme ça dans la pierre pour arriver à une ligne qui nous paraît juste et qui sort du bavardage, de la langue commune, et qui est un peu moins approximatif que l'oralité, que tout ça, quoi. Un peu vague, hein.
Non. Bon, on peut peut-être... je sais pas, s'il y a des questions...
Moi, je voulais savoir voilà. Si Anne-Catherine était instrumentiste, en plus vous êtes parolier.
Alors en fait, j'ai une grande histoire avec les instruments, et notamment le clavier et le piano, parce que voilà, mon grand-père, qui est un peu mon modèle, était organiste et facteur d'orgue. Donc il m'a emmené moult fois quand j'étais petit dans les églises où il relevait ses orgues et où il construisait même des orgues. Et il m'a appris le piano, très jeune. Donc j'ai fait du piano classique pendant toute mon adolescence. À côté de ça, pour m'amuser... Et dans le dos de ma prof, parce qu'elle détestait ça, je faisais de la variété, parce que ça me plaisait beaucoup aussi. J'adorais Véronique Sanson, William Scheller, tous ces gens que je considère comme étant des grands artistes. Et donc je chantais beaucoup. Mes parents étaient très patients, parce que j'étais en train de muer. Donc c'est fatalement extrêmement désagréable à entendre, un adolescent en pleine mue qui chante. C'était touchant, mais bon. Et voilà. Et j'adorais la musique et je voulais vraiment être chanteur, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais pas tellement confiance en moi, je ne sais pas. Je me suis tout de suite dit, mon vieux, si tu deviens chanteur, tu seras un chanteur ringard. J'étais persuadé de ça. Peut-être parce que les garçons au lycée, ils écoutaient The Cure, ils écoutaient de la pop anglo-saxonne. Et moi, j'ai toujours été plutôt chanson française. Et peut-être que j'avais un complexe par rapport à la pop. Et donc, je me disais, c'est pas la peine de persévérer là-dedans, tu seras ringard. Et puis, chose plus importante, j'ai découvert que j'avais aucun talent de composition. Voilà. Donc j'ai quand même plus ou moins décidé que la musique, c'était pas mon truc, même si ça m'occupait vachement. Et puis, il y a l'écriture qui est arrivée, je suis parti dans l'écriture. Je suis parti aussi tout court, puisque j'étais dans une petite ville de province et je suis parti à Paris. J'ai laissé mon demi-queue chez mes parents et j'ai arrêté la musique. Et puis, je me suis mis à travailler avec des chanteurs. n'y a pas si longtemps, quoi, il y a une dizaine d'années, pour des lectures musicales en festival, où je n'étais que récitant. Mais c'était déjà pas mal, parce que je découvrais ce que c'était qu'être sur scène, ce que c'était qu'être lecteur de mes propres textes, donc il y avait déjà du boulot. Et de fil en aiguille, je me suis remis à faire un peu de piano. Florent Marchais, le chanteur avec qui j'ai fait un spectacle qui a tourné pendant 3 ans, m'a remis à chanter. Et donc je me suis remis au piano et au chant, ce qui m'a fait un bien infini. Et là, j'ai été obligé de passer à la vitesse supérieure depuis quelques semaines, puisque on a fait donc un spectacle avec Florent qui s'appelait Frère Animal, qui était un livre-disque chez Vertical. Et là, on fait le numéro 2, en fait, mais qui va être un album, cette fois, un album-album, dans le label de Florent. Et j'ai beaucoup de parties chantées pour le spectacle. Et surtout, Florent m'a réservé des parties pour le piano qui sont assez dures. Donc, j'ai retrouvé, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Anon. Donc, c'est ce qu'on étudie, les exercices obsédants qu'on étudie quand on fait du piano. Donc j'ai repris 1h30 de Anon par jour et maintenant je prends des cours de chant avec un vrai prof. Voilà. Donc mon histoire avec la musique est loin d'être finie. Et...
Merci beaucoup.
Sauf si on me jette une tomate, je m'arrêterai de chanter, mais voilà. C'est une grande histoire la musique.
Vous savez dire quand vous avez écrit quand vous étiez ado, plusieurs styles d'écriture, comment êtes-vous passé de cette écriture première à l'écriture seconde, c'est-à-dire celle qui est lue, celle qui est lue, celle qui est du coup mise en avant,
ouais.
Celle qui est. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un travail entre ce qu'on garde pour soi. Et ce qu'on met à la disposition des autres.
Oui. D'abord, il y a le temps du pastiche et du mime dont je parlais tout à l'heure. Il y a un moment où on s'aperçoit quand même qu'on est dans le mime et on attend de tomber sur soi au coin d'une rue. Et je pense que le jour où on tombe sur soi au coin d'une rue, même si on est comme une esquisse encore, on le sent, on en a l'intuition. Mais moi, j'ai eu l'intuition quand j'ai fini mon premier roman, Les yeux secs. Donc, j'avais 20 ans. Je me suis dit, tiens, là, j'ai l'impression que je m'entraperçois. Et après, il y a les éditeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Ce sont des compagnons, quand ce sont des éditeurs dignes de ce nom, bien sûr. Ce sont des compagnons extrêmement importants, dont j'ai, moi, encore infiniment besoin aujourd'hui, quoi. Je travaille sur le texte, vraiment, avec eux, quoi. Ils écriraient à ma place, mais... Ils se sentent libres de tout me dire, tout ce qui leur semble ne pas aller. Et je crois que c'est grâce à mon premier éditeur, Bernard Wallet, qui a fondé les éditions Verticales, que j'ai un peu entrevu là où je pouvais aller et là où ça sonnait comme étant moi-même, quoi. Voilà, et puis... après, il ne faut pas avoir peur de jeter, je crois. Il faut que l'injonction vienne de vous, des éditeurs d'ailleurs. C'est pour le bien du livre. Et donc, moi, je jette énormément. Sur un roman de 200 pages, il y a sans doute 100 pages qui sont soit passées à la trappe parce que je l'ai désiré, soit parce que mes éditeurs ont estimé qu'en termes de rythme et en termes de nécessité, ces pages-là n'avaient rien à faire là. Ça, c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on met sous le regard de l'autre et qu'est-ce qu'on garde pour soi. Il y a mon journal que je garde pour moi, et tant mieux pour vous, parce qu'il est vraiment ennuyeux, et il ne sert qu'à moi. Mais cela dit, il y a une matière que je vais parfois explorer, même souvent. Voilà, je crois que l'évolution, faut faire confiance au temps aussi, je pense. Voilà. C'est une mue, c'est comme la voix à l'adolescence que j'évoquais. L'écriture, c'est une mue et... C'est une voix qui évolue toute notre vie et il faut accompagner cette mue avec bienveillance et curiosité, mais tout en tenant les rênes aussi, voilà. Parce que, je sais pas, moi quand je suis dans le sud par exemple, je peux prendre l'accent en 2 secondes et demie, quoi. Je suis très poreux à ça, je trouve ça assez beau les accents, tout ça. Et, Et donc dans l'écriture c'est pareil, quoi. Si je lis un auteur qui m'impressionne terriblement, il faut que je sois extrêmement vigilant pour pas commencer à être sur le motif et à chaque fois il faut revenir à soi. Et parfois c'est enquiquinant de revenir à soi parce qu'on s'ennuie entre soi et soi. Bon, dans les romans il y a des personnages, donc c'est bien, au moins on affronte l'altérité et l'invention. Voilà ce que je pourrais dire en gros. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. C'est ça qui est génial et passionnant. C'est que l'écriture, on le voit chez tous les grands auteurs et chez tous les petits auteurs aussi, je pense. Ça évolue tout le temps. Quand on désire aussi se remettre en cause et avancer, quoi. Je pense qu'on raconte toujours presque la même histoire, mais jamais de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a un livre après l'autre, quoi.
Moi, j'ai une question. À propos du personnage, il y a un personnage dans un de vos livres qui s'appelle Sarah Kane. Ah. C'est très osé de votre part.
Osé. En même temps, elle est pas très connue, quoi. Elle est moins connue que Molière. Donc peut-être qu'avec Molière, j'aurais pas l'audace de Mouchkine et je me dirais, oh non, je peux pas quand même mettre en fiction ce grand personnage. Autant Sarah Kane, c'est quand même une dramaturge qui est morte en 98, qui est maintenant jouée dans toute l'Europe, mais elle est pas ultra connue. Oui, j'avais envie de mettre en scène cette femme qui m'a sauvé du trou à un moment, alors que vraiment ces cinq pièces de théâtre, puisqu'elle n'en a écrit que cinq, elle est morte très jeune, sont parfois franchement violentes et déprimantes. Il y a notamment ce 448 Tychos qui est en fait le texte qu'elle a laissé sur son bureau avant de se suicider. Donc c'est une œuvre qui est très sombre, très radicale, très jusqu'au boutiste. Mais moi, elle m'a relevé plutôt que de m'emmener au fond. Et je voulais, c'était un hommage entre moi et moi. Je trouvais qu'en plus c'était une femme qui était romanesque parce que elle a créé un scandale pas possible dans l'Angleterre, dans leur comédie française à eux, quoi. Elle a supporté ce scandale, elle a tenu bon en disant que si elle représentait la guerre, la violence, c'est parce que elle ne voulait que l'amour. Et c'est vrai que c'est pas souvent compris ça. La représentation de la violence chez l'écrivain, c'est souvent qu'on ne rêve que d'une chose, c'est du contraire. Je sais pas, c'est une héroïne, quoi. C'est une femme que j'admire, c'est une femme, et de plus en plus j'aime mettre en scène des femmes, de toute façon. Enfin, depuis la disparition de Richard Taylor, je pense. Ça m'intéresse de plus en plus. Et voilà, et c'est intéressant de s'emparer d'un personnage comme ça réel et d'en faire de la fiction. Ça s'appelle des biopics, hein. Bon, moi, ce n'est qu'un petit moment dans la disparition de Richard Taylor. Et puis c'est intéressant d'un point de vue stylistique, parce que Sarah Kane, elle a une phrase extrêmement elliptique. Percutante, rythmée, hachée. Et je me suis dit, comment est-ce que je la fais parler puisque je me suis mis dans sa tête. Et donc j'ai choisi de faire une phrase sur 15 pages. Donc c'est-à-dire de prendre l'inverse de ce qu'on connaît d'elle dans les pièces. Voilà. Mais il n'y a pas eu qu'elle, hein, y a eu Munch aussi.
C'est pas un roman.
C'est un livre.
Vous pouvez nous en dire plus sur vous ?
Munch. Alors, c'était paru dans une collection de l'école des loisirs, donc pour ados, a priori. Et moi, j'avais découvert Munch par le film de Watkins, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et je me suis vachement identifié, en fait, à la période chez Munch, qui est la période de la sortie de l'adolescence et de son entrée en peinture. Il est né dans la grande bourgeoisie de son pays et son père voulait qu'il soit médecin ou je sais pas quoi, enfin, un notable. Et lui, il était passionné par la peinture, il était passionné par la bohème de l'époque, de Oslo, qu'on appelait à l'époque Christiania. Et cette bohème, elle était scandaleuse, quoi. C'était comme la bande à Rimbaud et à Verlaine de l'époque. Il buvait, il prenait l'amour libre, la sexualité débridée. Donc il traînait comme ça dans un groupe de vu comme des dépravés par la bourgeoisie de Christiania. Et il a tenu bon, il a tenu tête à son père qui était seul, puisque sa mère était morte de la tuberculose, ainsi que sa sœur des années auparavant. Donc c'était une famille très marquée par la mort, comme toutes les familles de l'époque de toute façon, parce que c'était une vraie épidémie. Et il a tenu tête à son père, à son médecin de père, et il est devenu peintre. Et en plus, ce que j'admire merveilleusement, c'est qu'il y avait une peinture académique à l'époque, comme dans toutes les époques, et lui, il a flairé le début de l'expressionnisme, quoi. Il a été à Paris, et il a flairé tous ces gens qui faisaient scandale. Et il a voulu en être. Donc c'est quelqu'un qui a dit non. C'est une Antigone au masculin et en peinture, quoi. C'est un sale gamin. Et je trouvais que raconter cette histoire au gamin était bien. qu'on a le droit de s'inventer, qu'il faut faire quelque chose de sa vie, que oui, il faut travailler, mais qu'on a le droit de s'inventer. Qu'on a le droit de n'en faire qu'à sa tête, si tant est qu'on ait un désir... solide, quoi. Et pour ça, Munch, il aurait pu devenir un petit médecin d'Oslo. Et c'est devenu un grand peintre scandaleux. Scandaleux, évidemment, à son époque. Hein. Et je voulais raconter ça aux jeunes, quoi. Et voilà. Ouais.
Moi, j'en ai pas.
Vous écrivez dans un livre, qu'il est des livres impossibles, et dans un autre livre, vous parlez de livres utiles.
Utiles ? Ah ouais.
Ça fait plutôt, je pensais, du Julien Clerc, ça, utile. Les livres impossibles, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais, c'est les livres que j'écris pas, parce que sinon ça va tuer une ou deux personnes, et j'ai vraiment pas envie. C'est ça, mes livres impossibles. Il y en a quelques-uns que j'écrirai, je pense, un jour, mais plus tard, quand certaines personnes ne seront pas là pour les lire. Et puis, il y a des livres impossibles qui sont fort utiles. Vous voyez ? Parce que je ne sais absolument pas comment répondre au mot utile. Non, il y a des livres impossibles qui sont très utiles parce qu'ils nous poussent vers la fiction. Ils nous poussent à trouver des transpositions qu'on n'aurait pas trouvées s'il y avait eu impossibilité, et des transpositions qui sont, à mon avis, parfois plus intéressantes pour le lecteur que la vie... la vraie vie à ras de moi. Donc je pense que le fait d'avoir des livres interdits déploie l'imaginaire, et c'est pas plus mal.
Et entre les deux, n'y a-t-il pas le journal intime ?
Oui, que je garde pour moi, celui-là. Celui dans lequel je vais piocher à intervalles réguliers. Mais il y a des écrivains qui tiennent leur journal intime dans l'idée de le publier. Le dernier qui m'est... totalement assis, c'est celui de Jean-Luc Lagarce. Parce qu'en plus, Jean-Luc Lagarce, il avait commencé son journal à une époque où il essayait vainement de faire publier ses textes, et il n'y arrivait pas. Il y avait Léa Toun qui l'aidait un petit peu. Donc cette pièce était un peu jouée à Besançon, sa ville natale, et puis un peu à Paris, mais il n'arrivait pas à obtenir cette reconnaissance de la publication. Et il le dit tout au long des deux gros tomes de son journal, que l'œuvre de sa vie sera sans doute son journal. Bon, heureusement, il y a aussi ses pièces qui ont été publiées, pour notre plus grand bonheur. Mais alors lui, du coup, il s'adresse au lecteur tout le temps. Et c'est de l'écriture. Il écrit, vraiment. Moi, je n'écris pas dans mon journal. Ce sont des notes, c'est de la matière. Mais il n'y a pas d'écriture qui se joue. On le sent en soi, quand on écrit quelque chose pour prendre des notes et pour garder, conserver, et quand tout d'un coup on est dans un processus d'écriture, c'est-à-dire adressé à vous, futurement, et où là, on ne sort pas tout nu, quoi. On s'habille bien, on essaye d'être regardable et aimable. Donc vraiment, le journal intime, c'est un espace, quand il n'est pas fait pour être lu, qui est foncièrement inintéressant pour le lecteur, quoi.
Mais on peut écrire pour s'exercer aussi, pour faire ses gammes, hein, non ?
Les gammes, c'est l'adolescence, je pense.
Ouais.
C'est les pastiches dont je parlais. Après, il n'y a que des accidents.
Mais le journal intime n'est pas un espace pour faire ses gammes.
Ouais, non, c'est trop fatigant d'écrire. Non, c'est trop fatigant, c'est génial, mais je ne ferai pas ça pour m'amuser, quoi. Je fais ça parce qu'il y a une nécessité à le faire, donc il y a une nécessité à prendre telle ou telle note, et il y a une nécessité, pour moi, à écrire tel ou tel livre. Mais je ne vais pas le faire comme ça. Ça, je préfère faire, je sais pas, la cuisine à mes amis, ou voilà, le divertissement, je vais le chercher ailleurs. Ce n'est pas un divertissement. C'est une passion, c'est une nécessité, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, il y a plein d'avaries, il y a plein d'accidents. Il y a des livres qu'on arrête... Parce que c'est raté, parce qu'on s'est trompé, parce que on s'est lassé, hein, comme une histoire d'amour qui capote vite, ça arrive. Et on se dit, peut-être ça m'aura mené quelque part, quoi. C'est comme le j'emploie souvent cette image parce que moi elle me parle comme les bras morts d'une rivière, quoi. Bon ben c'est tout asséché, mais à un moment il faut se souvenir que ça a servi à acheminer l'eau plus loin. Ça a servi à quelque chose, même si c'est aujourd'hui un bras mort. Mmh. Donc on a plein de bras morts, enfin moi j'ai plein de bras morts dans mon ordinateur. Quand je dis ça, bras mort, mon psy me regarde en fronçant les sourcils. Il a jamais réussi à obtenir une explication satisfaisante à cette expression. Alors maintenant, je dis angle mort.
Vous venez d'être récompensé par le prix de l'Académie française de la Nouvelle. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça fait plaisir?
Non.
Et puis, surtout la question, c'est le format court. Vous aimez le court, voire le très court, n'est-ce pas?
Alors, est-ce que ça fait plaisir? Oui, bien sûr, évidemment. Et ça m'a réjoui, en fait, aussi pour mes parents. C'est un truc dont je ne parle pas en toutes circonstances de ma vie. Mais vous savez, il y a une remise du prix dans l'hémicycle. Et c'est tout un cérémonial. Alors, on est 40 hein, à être récompensé, parce qu'il y a histoire, essai, théâtre. Moi, j'avais Véronique Sanson à ma gauche pour la chanson. J'avais Jacques Perrin à ma droite pour l'œuvre de toute sa vie. On est plein à être récompensé. Alors, c'est tout un cérémonial. On fait votre éloge, donc. Donc, c'est un peu flippant, parce qu'il y a des écrans partout. Et à un moment donné, donc, vous vous levez et puis vous n'avez rien à dire. Et pendant 5 minutes, on fait votre éloge. Voilà. Vous voyez passer sur l'écran. Bon, c'est... Et on a droit à 2 invités. Et donc j'ai dit à mes parents de venir. C'est un moment que je voulais partager avec eux. Genre, on est fait tellement baver à dire que je ne voulais pas passer de diplôme et que machin et que je serais écrivain et patati patata. Et à mon avis, ils sont tellement inquiétés à juste titre. Voilà, et après en repartant, ma mère m'a envoyé un texto en me disant « Tu nous auras fait vivre un moment fort. » Et donc, je suis en fait aussi content d'avoir eu ce prix pour moi que pour le moment qu'on aura vécu tous les trois, qui était assez joli quand même, voilà. Et après, le format court, ouais, j'aime beaucoup ça. J'ai écrit beaucoup de choses courtes ces dernières années parce que j'en avais assez du roman, de cette course de fond. De ce format, tout simplement. J'avais envie d'histoires courtes, qui est le format d'où je viens, en fait, parce que quand j'étais adolescent, je pratiquais que ça, aussi parce que ça correspondait au fait que j'étais un adolescent, je devais faire mes études, mes devoirs, aller au sport, etc. Donc c'était difficile d'écrire des romans quand j'étais ado. Et je voulais y revenir, ouais. Et c'est vrai qu'entre Pas exactement l'amour, entre un autre livre auquel je tiens beaucoup, qui est un livre texte-photo, qui s'appelait Les garçons perdus, qui est un livre qui est important pour moi. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Pas exactement l'amour s'il n'y avait pas eu ce livre-là, Les garçons perdus. Je me suis bien éclaté, comme on dit, dans les formes courtes. Et voilà. Et là, je suis parti sur un roman que je ne pourrais pas commencer avant la fin de l'année, mais qui sera très long. C'est mon pari. Parce que maintenant, je veux faire un roman très long.
Avec Martin.
Il n'y aura pas de Martin. Non. Non, je vais écrire l'histoire d'une femme de sa naissance à sa mort. Voilà. Raconter l'histoire d'une vie, en fait, ce ne sera pas nécessairement très long. Mais ce qui m'intéresse et que je n'ai jamais fait, c'est l'itinéraire de toute une vie. Voilà.
Je crois que vous aviez une question.
Oui.
Quand j'écris moi-même, j'ai besoin d'écrire sur du papier. Après, je peux passer à l'ordinateur. Je ne peux pas soi-même me corriger, réfléchir. Bon, je fais partie peut-être d'une autre génération. Je voulais savoir, vous, comment vous faites pour écrire? Est-ce que vous avez besoin du papier? Ou est-ce que vous allez directement sur l'ordinateur?
Moi, il y a 80% du temps, j'écris sur ordinateur directement. Je vais même vous dire, ça c'est comme avec le ménage, je suis complètement fou. Je suis un hygiéniste de la mise en page. C'est-à-dire que pour distancier au maximum et essayer de me rendre le mieux compte de ce que ça rend, Je vais jusqu'à singer la mise en page de Gallimard tel que le livre sera au final. Quoi. Mais ce qui fait que je suis devenu un geek. Je connais exactement la police qu'il faut, la taille, la condensation ou espacement. C'est, voilà. Donc en fait, mes manuscrits ressemblent à des jeux d'épreuves déjà. Et c'est ma façon à moi. Alors j'imprime.
Mais vous pouvez le faire. Enfin, ça vous demande... C'est naturel chez vous.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça.
Parce que ça, c'est peut-être le piano, mais ça peut aller lentement aussi, hein, ça peut être du Satie. Mais j'ai l'impression que la vitesse d'exécution de mes mains, ça va bien avec ça. Et au stylo, je sais pas, il y a un labeur en plus qui me déplaît. Alors quand je peux pas faire autrement, j'ai des carnets. Depuis que Moleskine a mis sur le marché... riche invention, ces si beaux carnets, ça me semble plus si ingrat d'écrire sur du papier. Mais ouais, j'ai besoin de l'écran, j'ai besoin de cette distanciation en fait, de ce que j'écris. Si ça porte le sceau de mon écriture, je peux pas me relire, je vois rien. Ouais, il y a trop de proximité, c'est trop chargé de... J'ai besoin de dépersonnaliser l'écriture. Et puis il n'y a que ces pratiques sur ordinateur parce que... Je ne sais pas si la critique, ce qu'on appelle la critique génétique, se penchera sur les versions des fichiers Word des écrivains, comme on étudie les manuscrits, quoi. À mon avis, ce sera un boulot assez laborieux. Mais je ne sais pas, moi, je me corrige tellement, tellement, sur papier, ce serait vraiment des grimoires illisibles, quoi. Il y a très peu de phrases. Parfois, ça m'arrive, et alors là, c'est des petits miracles, mais il y a très peu de phrases qui restent telles quelles, quoi. Ça n'arrive pas, en fait. Ça arrive quelques fois, il y en a une ou deux par livre, et souvent, ce sont des lapsus. Enfin, je les considère comme des actes manqués, et je m'en considère pas l'auteur. Je suis très content qu'elle soit là, mais je me considère pas l'auteur.
Merci. C'est bon ?
Ah !
Oui, on parlait du court tout à l'heure, du court donc des nouvelles, des textes très courts, et vous avez écrit des pages sur Barthes et sur les fragments amoureux.
Discours du fragment amoureux, oui.
Et là, on a des textes très courts dont vous parlez très bien dans ces pages-là justement, des petites narrations très courtes. Et alors une tentation vers ça qui est encore autre chose parce qu'à ce moment-là. Le très court se met à rentrer en relation dans un réseau assez incroyable, mais qui n'est plus du roman, qui n'est plus du récit.
Les aphorismes.
Et qui est, qui est autre chose, et qui est pourtant du récit, enfin pourtant un petit élément de récit. Voilà.
Je crois même que c'est le rêve ultime. Arriver à faire exister quelque chose de complexe, riche, profond, avec du très court, ou avec des juxtapositions de fragments. Ça, ce serait mon rêve, mais je crois que c'est infiniment complexe. L'extrême brièveté, pour moi, est extrêmement complexe. C'est-à-dire que je considère, ça ne regarde que moi, que la poésie et la chanson, puisque la chanson, pour moi, ça fait partie du champ littéraire, sont les choses les plus difficiles au monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque vous êtes poète. Mais pour moi, c'est la chose la plus difficile. J'ai écrit 4-5 chansons avec Florent, enfin un peu plus si on compte Frère Animal, mais heureusement que je le fais avec Florent, parce que je trouve que c'est la chose la plus difficile au monde. Et je suis très tenté par l'écriture fragmentaire, ouais. Mais ça me fait peur aussi. Les Garçons Perdus étaient un peu écrits comme ça. Et la nouvelle qui ouvre, pas exactement l'amour, est aussi faite de fragments.
Je trouve que l'épilogue est d'une densité terrible. Je le dis pas parce que les gens l'ont pas lu, mais j'ai trouvé ça sublime.
Alors de vous à moi, cette petite phrase qui termine cette nouvelle est prise, interprétée très différemment selon les gens. Il y a des gens qui m'en accusent quasiment en me disant que j'ai une vue de l'amour absolument désespérante, et il y a d'autres gens comme moi qui trouvent que non, c'est pas une phrase désespérante du tout. Bon, voilà, on arrête notre aparté ici. En tout cas, la brièveté, le fragmentaire, c'est comme un horizon littéraire, quoi. Mais ça m'impressionne encore un peu. Ouais. Donc j'y vais lentement mais sûrement.
Bien. Ben, il me reste à vous remercier.
J'avais encore une.
des vies romancées. Juste une, voilà, pour terminer une petite. C'est pas grave.
C'est pas grave, c'est juste une. Les gens voulaient vous faire lire un petit passage de, d'un nouveau texte. Nos vies romancées, donc on va terminer sur Nos vies romancées. C'est un titre que vous avez écrit dans lequel vous choisissez et analysez six auteurs qui vous ont marqué et influencé. Vous nous en avez parlé tout à l'heure de Sarah Kane, de Carson McCullers, François Sagan, Roland Barthes, Fritz Zorn et Jean Rhys. Le point commun, en tous les cas, ce qui nous a semblé de ces auteurs, c'est qu'ils ont, pour la plupart, mené une vie sans concession. Vous nous en avez parlé tout à l'heure de ça. Ils ont donné un sens particulier à la notion d'indépendance et de radicalité, avec un sens aigu de la liberté, et ont refusé peut-être les conventions sociales et d'être étiquetés, ce dont vous parliez au tout début. Voilà, on avait envie que vous nous lisiez les dernières lignes. Finalement, de votre livre, et si vous souhaitez parler de ces auteurs, pour terminer, je sais pas.
Ouais, c'est des. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement ce que je pense, quoi. Sont des êtres qui n'ont peut-être pas toujours été libres, mais qui ont essayé au plus possible d'être libres, et même Sagan, même peut-être surtout Sagan, qui était quand même la sale gosse des années 70 et 80, qui s'est sans doute brûlé les ailes, mais. Qui a eu cette insolence de vouloir être libre et une femme libre dans des années assez corsetées quand même, et dans un milieu très bourgeois. Oui, ils ont tous voulu être libres, ces gens-là, et certains l'ont payé, même Barthes au fond, parce que Barthes, il écrit le discours les fragments du discours amoureux au moment où il est quasiment la figure du commandeur de l'université française. C'est la sommité... en sémiologie, et tout d'un coup il écrit un livre sur le sentiment amoureux, qui est la chose la plus vulgaire qui soit pour ces messieurs de l'université. Il passe à apostrophe avec d'ailleurs Sagan, qui elle sort la laisse à l'époque. Je vous conseille d'aller regarder sur le site de l'INA cette émission. Pivot est vraiment un être malicieux. Il avait mis en contact donc Barthes, François Sagan, best-seller, et celle, comment elle s'appelle, qui a fait Angélique Marquise des Anges.
Voilà.
Et c'est un massacre orchestré par Pivot, parce que on sent que Françoise Sagan veut être adoubée par le maître, qu'elle admire suprêmement. Lui, comme c'était un homme extrêmement poli et très élégant, il ne laisse rien paraître, donc on ne sait pas du tout si il apprécie Sagan. Et de l'autre côté, il y a l'auteur de Angélique, qui veut faire pareil auprès de Barthes, sauf que là, il ne peut pas s'en empêcher, et il lui lance des regards où on sent poindre quelques sentiments, et Sagan est parfaitement désagréable avec elle, alors là, pour le coup. Et en fait, il y a Pivot au milieu, qui est très fier de son cirque. Quoi. C'est à mourir de rire. C'est un peu cruel, mais c'est à mourir de rire. Et pourquoi je disais tout ça? Ouais, donc Barthes, quand même, il va chez Pivot, donc c'est, voilà, il se vend, quoi. Il se vend grand capital en allant à la télé. Et c'est un universitaire qui parle d'amour. Et ben ça, c'est une preuve de liberté aussi que d'avoir osé, eu l'audace de ne pas rester dans le champ de sa science et dans l'esprit de sérieux aussi de sa science.
Voilà. L'académisme.
Ouais, l'académisme. Et dans le Roland Barthes par Roland Barthes, quand il ouvre son livre sur des photos de famille et des photos de lui, enfin. Mais c'est quelqu'un qui rêvait d'écrire un roman, en fait. Et, voilà, c'est pour ça que moi je le trouve passionnant. Bref, et donc voilà, c'est des gens à qui j'ai voulu rendre hommage parce que on pousse pas sur rien et on est fait que des autres. Et puis voilà, puis il y a des gens comme Jean Rhys par exemple, qui est une anglo-saxonne qu'on lit plus beaucoup. Et je me dis parfois, si des gens en lisant mon livre ont envie de la lire, ce sera pas perdu. Et donc, les lignes que vous m'ordonnez de lire sont assez courtes. De l'enfant que j'étais, on a pu dire qu'il était compliqué. Je pense plutôt qu'il est très compliqué de devenir soi-même quand la sacro-sainte norme nous souhaiterait tous identiques. Ça, je l'ai su très tôt. Le métier de vivre, ce n'est sans doute pas autre chose que ça. Accepter sa liberté, et si tant est qu'elle ne nuise à personne, l'imposer sauvagement, obstinément, en serrant les dents tout d'abord, puis un grand sourire aux lèvres in fine. Cela prend sans doute toute une vie. Alors maintenant, que la lutte soit belle. Je parlais de sourire parce que, pour la fin de ce livre, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, que j'aurais appris chez Sagan. La politesse de ce qu'elle avait appelé pour l'un de ses titres un certain sourire. Et c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre en compilant une série d'entretiens avec elle. On sait que la deuxième partie de sa vie a été extrêmement rude, parce qu'elle s'est beaucoup détruite, parce que la bande à Sagan aussi a été décimée. Tous les gens qu'elle aimait sont morts. Bernard Franck, et puis la femme de sa vie, je sais plus comment elle s'appelle.
Peggy.
Peggy, ouais. Bref, elle a perdu beaucoup de gens, il y a eu la drogue, l'alcool et tout. Ça a été très dur, mais en re-regardant toutes les archives qu'on a d'elle, vous remarquerez qu'elle ne se départit jamais de son sourire, de ce côté faussement léger, un peu primesautier. Et j'aurais pas du tout compris ça quand j'étais ado, mais là que maintenant que je suis un vieux, je me suis dit, voilà, c'est ça la suprême élégance. C'est de dire, un peu à la Chamfort aussi, en chanson je chante fort à ça, souris puisque c'est grave. T'en parles, mais oublie jamais quand même d'avoir la décence de sourire à la fin. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup d'être venu, merci de m'avoir invité, et puis je vous remercie pour la qualité de ce que vous m'avez dit et de vos questions.
Merci à vous.
Merci.